prendre un peu de temps pour aborder sa parole maintenant. Et je voudrais prier. Et puis ensuite, nous allons commencer. Prions. Dans la continuité de ce que nous venons de faire avec cette expression extraordinaire de ton amour qui se donne, un amour qui se dévoue, un amour qui se sacrifie, dans le prolongement de ce projet merveilleux pour lequel tu n'as pas ménagé ta vie au point de l'exposer à l'opprobre, à la honte, à l'ignominie. Dans ce prolongement, Seigneur, nous voulons nous aussi aujourd'hui apprendre un peu plus à te servir, à t'être agréable, à vivre aussi pour toi, pas seulement de bénéficier de la grâce que nous avons en jouissant de notre existence, mais en faisant cette existence aussi un moyen par lequel toi aussi, Seigneur, tu es glorifié dans ce monde. Accorde que ce que nous allons partager ensemble soit bénéfique, d'abord pour l'avancement de ton royaume, ensuite pour ton Église, ta communauté, et enfin pour chacun de nous. Seigneur, accorde-nous cette grâce, moi-même aussi, parce que j'ai besoin d'être aussi enseigné chaque jour. J'ai besoin de connaître encore, Seigneur, j'ai besoin d'être toujours à tes pieds, Seigneur, pour aussi recevoir. Merci, Seigneur, parce que tu es si bien disposé avec chacun de nous ce matin encore. Sois béni, Seigneur, au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 1. Nous allons lire du verset 35 au verset 51. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples, deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Ah, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors, ce texte m'est arrivé parce que j'étais en train, vous savez, nous sommes maintenant dans la période de l'Avent. D'ailleurs, nos trois bougies montrent bien que nous sommes à la troisième semaine. Et cette période m'intéresse toujours parce que dans la Bible, on voit tout un déploiement. On voit toute une mise en œuvre des moyens qui viennent. Et un des moyens, notamment, qui m'intéresse énormément, c'est Jean-Baptiste. Parce que, avant que Jésus n'arrive, voilà que Jean-Baptiste est là, annoncé aussi depuis longtemps par les prophètes, le voilà qui se met en place, le voilà qui se met dans son ministère. Et ça m'intéresse beaucoup. Et en étant intéressé par le personnage de Jean-Baptiste, en lisant encore, en relisant encore, j'ai été frappé par une chose qui va donner donc aujourd'hui le thème de ce message. C'est le thème de être disciple du Christ. Et donc moi, je veux faire d'une pierre deux coups ce matin. D'une part, peut-être compléter toujours ce tableau que je vous ai présenté à propos de notre identité. Je vous ai dit, nous avons une double identité, celle d'être à la fois enfant de Dieu et celle d'être serviteur du Christ. Je vous ai dit que dans l'élan d'une vision dynamique de l'Église, du travail dans l'Église, nous avons à faire avancer le royaume de Dieu. Et l'Église, c'est ce moyen par lequel nous faisons avancer le royaume de Dieu. Et j'ai dit, nous ne pouvons pas être efficaces dans le travail de Dieu si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes efficaces que si nous savons qui nous sommes, parce qu'en sachant qui nous sommes, nous savons quelles sont les responsabilités qui nous incombent, et à ce moment-là, nous ne pouvons que les faire, parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fait. Et nous sommes les personnes les mieux placées à le faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs, ministres, des personnes qui avons une position d'honneur, mais une position significative pour le monde. Parce que nous parlons de quelqu'un qui est devenu notre père, nous parlons de notre famille. En même temps aussi, en tant que serviteurs du Christ, nous sommes à son service, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses doulos, nous sommes là pour que lui puisse se servir de nous. Nous sommes la main de l'Éternel. Nous sommes l'instrument par lequel Dieu se fait connaître. Dieu se fait découvrir dans notre monde. Voyez-vous, notre identité, c'est une question importante. Et ce matin, je vais faire d'une pierre deux coups. Relier cette idée, d'abord cette idée que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais aussi que être serviteur est lié aussi avec la question du disciple. Le plus je comprends, c'est que c'est qu'être un disciple. Le plus je m'implique dans le discipolat avec le Seigneur, le plus je suis un bon serviteur pour Dieu. C'est mon écolage pour être un bon serviteur. Deuxième chose que je voudrais aussi faire aussi avec ce texte, c'est que j'aimerais aussi le mettre en relation avec le fait que nous avons un devoir. Et à travers l'exhortation, à travers l'ordre que nous recevons dans Matthieu 28, versets 19 à 20, on dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Je ne peux pas faire des disciples si je n'ai pas été moi-même disciple. Je ne peux pas faire des disciples si je ne sais même pas par quel chemin on passe pour faire des disciples. J'ai besoin d'être moi-même un disciple pour savoir comment aider les autres à devenir des bons disciples de Christ. Voilà pourquoi j'ai mis ce thème-là, être un disciple de Christ. Je vais juste, à travers ce texte, juste prendre quelques caractéristiques que je voudrais vraiment parler avec vous. Bien sûr, quand vous regardez ce texte, qu'est-ce qui saute aux yeux ? Le thème normal de ce texte, ce n'est pas le thème du disciple. Ce qui saute aux yeux dans ce texte, c'est la manière dont Christ est présenté. C'est l'image de Jésus-Christ qui est présentée. Regardez vous-même dans ce texte. Tu peux le remettre, Nadine, s'il te plaît ? Regardez vous-même. Ce texte est une mine de révélation de qui est Jésus-Christ. Ça commence. Versets 35 et 36, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà une façon de présenter Jésus-Christ. C'est l'agneau de Dieu. On voit déjà à travers cette image tout l'Ancien Testament. On voit déjà la Pâque juive. On voit déjà toute cette expression du sacrifice qui vient. Deuxième manière de présenter Jésus dans ce texte, verset 38. Les disciples qui arrivent, que cherchez-vous ? Ils répondirent, Rabbi, maître. Jésus est maître, est le maître. Troisième image, toujours en poursuivant. Le verset, plus loin, verset 40, j'ai perdu ma feuille là. Ah ouais. Voilà, merci. Donc je vais d'abord retrouver mes feuilles parce que ce sont mes feuilles qui m'embrouillent, alors c'est pas bon ça. Sinon je vais vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Allez, voilà. Verset 41. Il rencontre, et là il dit, c'est le Messie. Vous voyez? Donc, ce sont des différentes présentations de Jésus-Christ. Le Messie, qui signifie le Christ. Et puis, plus loin encore, c'est Philippe qui va le dire, au verset 45, et dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et enfin, la finale, la fin, c'est la déclaration de Nathanaël qui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ce texte aurait été un bon support pour parler de Jésus-Christ, pour parler de ce qu'il est. Mais ce matin, je voudrais me servir de ces cinq témoignages, de ces cinq façons de présenter Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais me servir de ça pour justement fonder ma prédication qui concerne les disciples. Parce que Jésus, il est tout cela, et bien plus que cela. Jésus, il est tout cela, mais c'est aux yeux des disciples. Aux yeux des disciples, il représente tout cela. J'aimerais que nous nous remettions dans le contexte de cette époque-là. Pour les Juifs de cette époque-là, c'est une question existentielle. C'est une question cruciale. C'est une question fondamentale pour eux. Ils sont à la recherche de leur Messie. Ils sont à la recherche de celui qui va leur permettre de pouvoir sortir du joug colonial, de la domination romaine. Pour eux donc, c'est pas une question simple. Ils sont un peuple enfermé, écrabouillé, écrasé par la domination d'un autre peuple. Ils sont fiers de tout l'héritage qu'ils ont reçu. Ils n'aspirent qu'à une chose, à être délivrés. Et pour eux, c'est très important. C'est une question importante. Tout le peuple est là-dedans. Ils sont en train de regarder où se trouve le Sauveur que Dieu a promis. Où se trouve le Messie que Dieu nous a promis de nous envoyer. Et voilà quelques disciples, quelques hommes rencontrent là un homme épatant, un homme tout à fait exceptionnel, un homme différent de tous ceux qu'ils ont rencontrés. Ils disent « Waouh !» On a rencontré le Messie. On a trouvé le Seigneur. À leurs yeux, Jésus est quelqu'un de fondamentalement important, de très important, parce qu'il vient modifier leur cours de l'existence. Il vient changer leur vie quelque part, leur quotidien, parce que si c'est véritablement le Messie, ça veut dire que la vie va changer. Ça veut dire que l'espoir va recommencer dans ce pays. C'est une révolution pour leur existence. Ça change leur quotidien. Ce matin, je voudrais prendre trois caractéristiques que ce texte nous fait ressentir à propos du fait d'être un disciple. Première caractéristique, versets 38 à 42. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Ça, nous savons. Quelqu'un qui suit un maître. Suivre pas dans le sens de marcher derrière lui. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté. Je suis prof dans une école, école des arts et métiers. J'ai un élève de section bois qui est un peu caractériel et hyper actif là, vous voyez. Alors c'est très très abusant. Je me lève pour faire le tour, pendant que je lui explique quelque chose, je parle tout d'un coup. Qu'est-ce que tu fais là, Guillaume? Ah, je vous suis, monsieur. Je continue, il est derrière moi. Et puis, je dis, mais Guillaume, tu ne peux pas t'asseoir comme tout le monde? Ah, mais monsieur, je ne sais pas m'asseoir. Vous vous levez, vous me donnez envie de me lever aussi. Vous marchez, vous me donnez envie de marcher. Et c'est comme ça. Hein? Alors, évidemment, vous savez, avec ce genre d'élève, il ne faut pas vite se fâcher. Parce que vous ne savez pas toujours qu'est-ce qui va arriver. Parce que s'il pète un plomb, vous ne savez pas toujours comment vous allez le maîtriser. Donc, je commence par lui demander gentiment, ça t'arrive souvent? Est-ce que ça t'arrive souvent de faire ça? Il me dit, oui, monsieur. Je dis, tu fais ça avec tous les profs? Il dit, oui, monsieur. Je dis, ah bon? Et comment tu suis tes cours? Il dit, monsieur, tous les profs me connaissent. Je suis assis. Et puis, au bout d'un certain temps, je me lève. Je fais les 100 pas dans le cours, dans la classe, etc. C'est comme ça. Bon, il travaille dans les bois. Vous savez, les bois, il est tout le temps debout, hein, en train de travailler son bois. Donc, il n'a pas vraiment, vraiment le temps de s'asseoir. Mais enfin, il est un hyperactif. Eh bien, je ne parle pas de suivre de cette façon-là. Je ne parle pas de suivre en étant derrière. Jésus ne parle pas de suivre en marchant derrière lui. Suivre ici, c'est véritablement entrer dans son école, dans l'école du Christ. C'est véritablement devenir son apprenti. Apprendre de lui les gestes, les réflexions, les attitudes, les comportements qu'on va nous-mêmes ensuite appliquer. C'est ça que ça veut dire, suivre. Donc, première caractéristique, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et j'aime bien cette idée de maître. Un disciple n'est pas quelqu'un qui suit n'importe qui. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Ça veut dire qu'il a reconnu que cette personne-là est un maître. Il a reconnu dans cette personne-là des capacités qui peuvent lui permettre d'aller de l'avant ou d'acquérir des connaissances dans le domaine où le maître est spécialisé. Un disciple, c'est quelqu'un qui va alors avoir les dispositions de se soumettre, d'obéir, de se mettre à l'école de son maître. Un disciple admire son maître. Un disciple, il vénère son maître. Il respecte son maître. Un disciple, quand il voit son maître, rien à faire. C'est le maître. Vous savez, dans le passé, je regardais beaucoup les films des arts, d'arts martiaux, parce que moi-même, je pratiquais le taekwondo. J'aimais bien donc regarder les films des arts martiaux. Et j'étais toujours frappé avec ce machin où vous voyez ces élèves, ces disciples qui rentrent à l'école du kung-fu, ou peu importe, du taekwondo, peu importe de quel type de d'art martial, mais ils y entrent tout petits, à l'âge de 6 ans, 7 ans, comme vous quand vous allez à l'école. Mais seulement, eux ne rentrent jamais chez eux à la maison. Ils sont tout le temps là, dans ce temple-là, dans cet endroit-là, et ils vont être formés à 15, 16 ans, 17 ans. Mais c'est des gens balèzes, c'est des gens sur qui le maître peut compter parce que ils connaissent le maître du bout des doigts, ils connaissent le métier qu'on lui a appris, l'art martial qu'on lui a appris des bouts de doigts. Il est aussi spécialisé que le maître. Mais il reste toujours soumis au maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait confiance à son maître. Tellement confiance qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à ses droits, à son raisonnement, à sa façon de penser. Il renonce à cela, il fait confiance. Il s'abandonne entre les mains de son maître. Un aspect ici. Voyez que dans ce texte, il y a cette parenthèse qui est importante et significative. Il dit « Rabbi », on met entre parenthèses « maître ». Et ce mot « Rabbi » est un mot qui est important. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans le sens hébreu du mot, le mot « rabbi », c'est un maître, mais un maître parce que c'est un enseignant. Un maître d'enseignement, un maître qui donne aussi l'enseignement. Donc, un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui suit un maître, tout simplement, mais principalement, l'objet principal de l'activité du disciple par rapport à son maître, ce sont les enseignements. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître, qui les suit et qui les pratique. Et quand on parle d'enseignement ici, il ne s'agit pas d'enseignement au sens de théorie. C'est véritablement des enseignements de vie, de pratique de vie, de mode de vie, de philosophie de vie. C'est-à-dire une manière de penser qui vient aussi révolutionner notre existence. On appelle ça de l'ascétisme. Quand j'ai voulu commencer ma thèse de doctorat à Louvain-la-Neuve, mon professeur Guy Houchon m'a dit « Boulard, tu es sûr de vouloir faire ta thèse ?» Je dis « Ben oui, j'ai très envie de faire ma thèse. » Il dit « Boulard, je m'excuse de te le dire comme ça, mais j'ai peur que tu n'ailles pas jusqu'au bout de ta thèse. » Je dis « Pourquoi, monsieur ?» Il me dit « Parce que beaucoup d'étudiants ne développent pas ce qu'on appelle l'ascétisme. » L'ascétisme ? C'est quoi ce machin-là ? Je n'ai jamais entendu parler d'un oiseau qui s'appelle ascétisme. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans mon dictionnaire pour aller voir de quoi il s'agissait. Et quand j'ai lu ça, et quand je replongeais dans les philosophes qui ont développé l'ascétisme, j'ai compris ce que ça voulait dire. Un ascète, c'est quelqu'un qui est cohérent. Enfin, je fais le résumé de ce que j'avais compris à l'époque. Un ascète, c'est quelqu'un qui est cohérent avec sa pensée et son action. C'est quelqu'un qui agit dans le sens de ce qu'il pense, dans le sens de ce qu'il dit qu'il est, et qui dit ce qu'il fait. En fait, il y a une telle cohérence qu'il est prêt, s'il le faut même, à mourir par rapport à ses idées qu'il défend. Un exemple d'ascète, c'était par exemple Gandhi, par exemple, qui était un homme qui pensait une chose, qui vivait cela. Sa philosophie, c'était sa vie, c'était sa philosophie. Et quelque part, un disciple, c'est un peu comme cela. C'est les enseignements que Christ nous donne, ces enseignements de vie, qui doivent venir révolutionner nos vies. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre vie qui doit s'adapter aux enseignements de Christ, mais non, ce sont les enseignements de Christ qui doivent venir changer notre existence, bouleverser notre façon de voir, changer notre attitude, notre comportement du quotidien. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du maître. Vous voyez, quand on parle de suivre les enseignements du maître, ça veut dire que un disciple doit être quelqu'un d'enseignable. Vous savez, c'est quoi être quelqu'un d'enseignable ? J'ai déjà donné une illustration une fois ici. J'ai dit, quand vous prenez un petit enfant et que vous l'amenez à l'école et qu'il ne veut pas du tout aller à l'école, il ne prendra jamais son apprentissage. Et quelqu'un d'enseignable, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter, à tenir compte de ce qu'on lui dit, à faire de la place à ce qu'on lui dit, et à aussi essayer de vivre aussi selon ce qu'on lui dit. Mes amis, nous sommes très peu enseignables aujourd'hui. Je ne le dis pas parce que nous sommes des chrétiens, je dis dans l'humanité, nous sommes très peu enseignables aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le modèle d'autorité a disparu. Nous sommes dans une société qui n'accepte plus l'autorité. Nous sommes une société qui n'accepte plus que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Nous sommes une société où quand quelqu'un dit « tu devrais... ah, tu n'as pas le droit, c'est ma vie !» Même des petits-enfants, j'ai des élèves, je dois me fâcher avec eux. Je lui dis quelque chose, « non monsieur, c'est pas comme ça, c'est pas vrai monsieur !» Je dis, attends, t'as ça comme taille hein? quand moi j'ai étudié, toi, tu n'es même pas encore né. Et quoi? Tu veux me dire, moi j'ai fait les études pour ça. J'ai étudié. Après tout, quand on est prof, on vérifie quand même ce qu'on va raconter aux élèves. Hein? Non. Non, monsieur, c'est pas vrai. Purée dit, alors je dois sortir tous mes bouquins. Et c'est écrit quoi ici? Et c'est écrit quoi ici? On va où là? Mais c'est un petit bout. Pourquoi? Parce que nous sommes une société qui est comme ça aujourd'hui. Les gens n'acceptent plus. On accepte que ce qui est dans sa tête. On s'entête parfois, on se bute parfois, on fait des erreurs, tout le temps les mêmes erreurs, et on ne veut pas que quelqu'un vous dise quelque chose. On s'énerve. Nous sommes très peu enseignables aujourd'hui. Et c'est une maladie dont les chrétiens doivent se soigner. Parce que Dieu veut nous enseigner. Si nous n'écoutons pas, on ne recevra pas. Et si on ne reçoit pas, on ne s'enrichira pas. Et si on ne s'enrichit pas, on ne pourra pas enrichir les autres. Parce que ce que je reçois, c'est ce que je vais donner. Mais si je ne reçois rien, qu'est-ce que je vais donner aux autres?
Rien.
Un disciple, c'est quelqu'un qui est enseignable. C'est quelqu'un qui est suffisamment humble que pour s'émerveiller. Mes amis, aujourd'hui, on ne s'émerveille plus. On vous dit quelque chose. Ah oui, je savais, hein. Ah oui, je connais, hein. Ah oui, je connais, hein. Oui. Non. On doit apprendre à s'émerveiller, à dire, oh, tiens, c'est curieux, je ne savais pas ça. Ah, je découvre. Ah bon, tiens, tiens. On doit apprendre à s'émerveiller des petites choses de la vie. L'humilité nous permet de nous émerveiller. L'humilité nous permet d'apprendre. Quand je ne suis pas humble, je n'apprendrai jamais. Au contraire, je ferai des bêtises. Si je suis humble, j'apprendrai aussi à mettre en pratique. C'est parce qu'un petit garçon viendra me dire quelque chose qui est très 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 bien, que je le contesterai. Si je suis humble, je dirai, ah, tu m'as enseigné quelque chose. Ah, mais je vais appliquer ça. Ah, mais je vais faire ça aussi. Un disciple, c'est donc quelqu'un qui reconnaît son maître. Et peut-être avant de passer à la deuxième caractéristique. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. J'aimerais simplement rappeler que nous sommes chrétiens. Et les chrétiens, la définition la plus simple, la plus élémentaire d'être chrétien, c'est d'être disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens qui suivent Jésus-Christ. Nous sommes des apprentis de Jésus. Nous sommes de ceux qui apprennent de Jésus afin de mettre en pratique non pas nos pensées à nous, mais sa pensée à lui. Nous apprenons de lui pour avoir les gestes et les réflexes de lui, pas de nous, mes amis. Ça demande beaucoup. Et je peux comprendre pourquoi Christ disait, quelque part dans la Bible, il disait, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix. Et je peux comprendre pourquoi. Nous sommes les obstacles de la transformation en nous-mêmes. Notre orgueil, notre suffisance bloque notre capacité à véritablement laisser Christ régner en nous, vivre en nous et changer nos vies. Nous sommes pétris. Oh, pardon René. Nous sommes remplis. Mais j'aime bien ce mot, hein, pétri. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le nom de René Pétri. Enfin, peut-être pas. Bon, enfin, parenthèse. Donc, nous sommes remplis, mais remplis comme quand on pétrit le pain, là. Vous voyez, on est remplis de nous. Il n'y a pas de place pour concéder, pour laisser Dieu agir dans nos cœurs. Mes amis, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes à son école. Et ce n'est pas une école où nous allons le matin avec nos cartables, nous suivons la madame ou le monsieur, et nous rentrons chez nous le soir, et voilà. Ce n'est pas cette école-là. C'est une école de 24 heures sur 24. On est à son école. C'est lui le maître tous les jours, 24 heures sur 24. Et le maître nous enseigne à travers sa parole, mais aussi à travers les circonstances de la vie, à travers les rencontres avec les autres. Tout autour de nous nous enseigne. Nous enseigne. C'est pour ça qu'il faut apprendre, quand vous lisez votre Bible, à rester dans votre Bible et pas à spéculer. Il y a des gens qui prennent la Bible, qui lisent juste un mot et ils peuvent te faire 40 phrases, 40 pages de développement. Ça vient d'où? De sa tête. Non. Apprenons à faire le contraire. Nous lisons et nous cherchons la vérité là-dedans. Et nous cherchons, nous restons là-dedans. Alors, à force de le faire, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean, chapitre 6, verset 63. Restons dans la parole. C'est la parole qui va nous modeler, nous façonner, qui va nous aider. Et les circonstances de la vie deviendront des lunettes à partir desquelles on va commencer à voir où est Dieu, qu'est-ce que Dieu nous apprend. Deuxième caractéristique. Verset 42. C'est un épisode subtil, banal. André présente à son frère Simon, nous avons rencontré le Messie. Simon, sûrement, dit, « Ah, j'aimerais bien le rencontrer moi aussi !» Parce que tous, ils sont à la recherche du Messie. Et le voilà qui s'encourt avec son frère pour venir devant Jésus. Jésus le voit et dit, « Ah, tu t'appelles Simon !» Mais désormais, tu seras appelé Pierre, Cephas. Vous voyez? C'est Jésus qui lui donne ce nom-là. J'ai lu, j'ai fait des recherches là-dessus, et j'ai lu que dans la tradition juive, c'était normal, les maîtres changeaient parfois les noms de leurs disciples. Ils pouvaient leur attribuer d'autres noms en fonction de je ne sais pas très bien quoi, mais enfin, ils pouvaient donner en tout cas des nouveaux noms. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Changement de nom. Changement de nom, n'est-ce pas aussi quelque part changement de vie? Non? On change de nom, on est quelqu'un d'autre. Enfin, on est comme quelqu'un d'autre. Bien sûr, physiquement, il reste le même. Mais changement de nom, changement de personnalité, peut-être aussi de destinée. Quelque part, il devient Pierre. Pierre le roc. Il devient quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que ça veut dire Simon d'ailleurs. Le père de Simon. Tu as une idée de ce que ça veut dire Simon? Non. Allez, on ira vérifier ça après nous. Alors, il devient Pierre. Et c'est le maître qui le fait. C'est Jésus qui change son nom. C'est pas lui qui le change lui-même. C'est le Seigneur qui lui dit, tu deviens désormais Simon, tu deviens désormais Pierre. Voyez-vous? Moi, je vois là quelque chose d'extraordinaire. Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie a changé, dont le nom a changé. Ça veut dire aussi, le disciple, c'est quelqu'un dont la destinée change. Il était un voleur, sa destinée était peut-être la prison. Il devient un chrétien, il arrête le vol et sa destinée est l'éternité. Il change de direction, il change le but de sa vie. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous passons de l'état de pécheur à l'état de racheté. C'est par son œuvre sanglante à la croix. Et donc un disciple n'est disciple que dans la mesure où il peut dire que sa rencontre avec le Seigneur a changé sa vie. On ne peut pas être un disciple alors que notre vie, notre rencontre avec Christ n'a rien fait de notre existence. Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie a été changée par sa rencontre avec Christ. Non seulement sa vie en général, mais sa vie dans les moindres détails. Sa vie au quotidien. Un disciple, c'est quelqu'un vraiment, véritablement, dont la vie a changé. Et c'est important. C'est important pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Comment vais-je témoigner si je n'ai rien à dire? Comment vais-je témoigner si ne s'est rien passé dans ma vie? Comment vais-je témoigner si je n'ai pas eu rencontre réelle avec le Seigneur? De quoi vais-je parler? Regardez André. André, le frère de Jésus. Nous voyons, il était... Vous savez que André était le disciple de Jean-Baptiste. Il était disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, semble-t-il, mais ça c'est la tradition juive qui raconte, Jean-Baptiste aurait expliqué à André que je vais mourir, je ne survivrai pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi cette phrase où il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Que le Seigneur Jésus croisse dans le ministère et que moi je diminue. Parce qu'il savait que là où il allait, c'était à la mort. Et André l'avait compris. Et donc, lorsque Jean va montrer Jésus en disant, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, voilà l'agneau de Dieu, eh bien, André va comprendre que c'est le moment pour lui d'aller vers ce maître, parce que c'est enfin celui dont on attendait. Mais regardez la vie d'André. La vie d'André est tout à fait changée parce qu'il commence, il devient évangéliste, André, en quelque sorte. Il va aller voir son frère Philippe, il va aller voir celui-là, son frère Simon, il va aller voir plein de gens, il va parler autour de lui. Parce que ça a changé sa vie, parce que ça a bouleversé son existence. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Si tu t'assois chez toi à la maison, tu commences à faire un peu l'inventaire, qu'est-ce que tu peux dire que ça a changé dans ta vie? J'étais comment avant? Je suis devenu comment? Et les petites choses que peut-être dans ma vie, je trouvais que ça n'allait pas, est-ce que par la grâce de Dieu, ces choses ont-elles évolué? Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie a été vraiment changée. Troisième caractéristique. L'entretien avec Nathanaël, verset 45 à verset 51. Entretien très riche et très intéressant. Nous avons là un Nathanaël qui nous invite vraiment à une vie pure. C'est un homme vrai, en qui il n'y a point de fraude. Et j'essaie de me dire, mais enfin, il est comment ce type-là pour avoir pas de fraude, etc. Et j'ai lu, et la plupart des commentateurs disent, en fait, Nathanaël était un homme qui était juste avec lui-même, avec sa conception du judaïsme. Il était correct. Il n'était pas tordu de pensée. Il était juste. Et on ne va pas parler de Nathanaël. On va juste évoquer cette idée qui est derrière. Voilà Nathanaël qui discute avec Jésus. Et puis, il se rend compte que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Que Jésus, c'est vraiment le Messie. Que Jésus, c'est vraiment le Rabbi. Il se rend compte de ça. Et voilà la réponse de Jésus. Ah, parce que tu as cru? Eh bien, je vais te dire une chose. Il y aura. Tu restes en. Oui, voilà. Voilà, c'est très bien. Tu remontes juste. Voilà, là, la fin. Voilà, la finale. Voilà. C'est très bien. Stop. C'est très bien. Alors, il dit, mais voilà, toi, tu dis. C'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu que tu crois. Eh bien, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et alors, c'est là que Jésus va donner cette image au verset 51. Cette image qui fait allusion à ce qui s'est passé avec Jacob. Il va donner cette image où il va véritablement montrer qu'il se passera des choses avec Jésus-Christ, avec lui-même. Et moi, j'aimerais pouvoir dire encore une troisième caractéristique ici sur le disciple. Le disciple n'est pas seulement quelqu'un qui peut témoigner du changement dans sa vie, opérer dans sa vie, mais il est aussi le témoin de l'action de Dieu autour de lui. Il est le témoin de ça. Il voit la gloire de Dieu. Il voit la puissance de Dieu autour de lui. Il voit que Dieu agit autour de lui, dans son église, dans sa vie autour, dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle. Il voit que ça bouge avec Dieu. Quand il prie, il voit que Dieu agit. Quand il met sa foi en Dieu pour que quelque chose se fasse, il voit que Dieu agit. Que ce soit pour répondre positivement ou pour répondre négativement et sans la main de Dieu. Vous savez, un jour, c'était il y a quelques années de ça, nous étions à la retraite de fin d'année, on était encore à Louvain-la-Neuve, et j'étais étudiant, j'ai déjà raconté à l'un ou l'autre ici que j'ai connu une période dans mes études où c'était vraiment galère, hein. C'était la galère la plus complète. Je manquais de tout. En fait, je manquais de plein de choses. Et je me souviens, je venais de me marier. On venait de se marier avec Louise. Et puis, là, j'étais en train de prier pour remercier Dieu pour la fin de l'année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai manqué de rien toute l'année. Que j'avais été béni toute l'année, que... Finalement, on arrive à la fin de l'année. Mais oui, mon solde est zéro, mais il n'y a pas de problème. Je suis bien. J'étais étonné. Et ça m'a fait pleurer. Parce que j'ai trouvé extraordinaire de me dire, mais tiens, ce Dieu est là. Nous, parfois, nous doutons de lui. Nous, parfois, nous, Nous ne le voyons pas à l'œuvre parce que sur un problème précis, on se lamente. Mais si nous regardons l'ensemble de notre vie, le cours de notre existence, combien de fois Dieu n'a-t-il pas été là? N'a-t-il pas agi? N'a-t-il pas fait des choses dans ma vie? Et là, j'ai dit, je suis vraiment ingrat. Je suis vraiment ingrat. Je manque vraiment de gratitude. Comment je peux dire que mon Dieu n'agit pas? Le chrétien est le témoin de l'action de Dieu. Le disciple voit l'œuvre de Dieu. Il peut même le susciter. Il peut même le pousser. Il voit la main de Dieu autour de lui. Et il peut même susciter que cette main agisse à travers la prière, à travers sa propre vie, à travers son propre engagement. Il peut susciter des choses dans les épreuves comme dans les moments faciles. Dieu, la Bible utilise cette image de Jacob dans ce rêve, avec ce rêve qu'il a fait. Si vous voulez un jour lire ça, c'est dans Genèse au chapitre 28. Et donc c'est Jacob qui va à la rencontre d'Ésaü. C'est plein de stress pour lui. Il va revoir son frère qui l'a arnaqué littéralement. Et il ne sait pas comment ça va se passer entre eux. Ça va peut-être être la bagarre. Il a peur. Et c'est là qu'il commence peut-être à se souvenir un peu de Dieu. Peut-être qu'il commence à se dire, peut-être Seigneur, ça serait peut-être bien que tu me viennes un peu en aide parce que cette affaire-là va être chaud. Et là, il dort et il a ce rêve-là où il voit un mouvement entre le ciel et la terre avec les anges qui montent et qui descendent. Cette vision extraordinaire. Et moi, j'aimerais dire que cette vision est un encouragement. C'est un encouragement pour Jacob. Et en même temps, c'est une révélation de la gloire de Dieu. Il se rend compte que Dieu agit de manière souveraine. Ça ne dépend pas de nous. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il fait quand il veut. Jacob se rend compte que Dieu est souverain. Il fait comme il veut, il déploie sa puissance, il envoie ses anges qui sont en mission, ils font du travail, ils remontent, ils redescendent. Il y a toute une activité, indépendamment de Jacob, de ce qu'il est. Et là, Jacob est épaté. Il se rend compte que c'est un Dieu qui est digne de louange, qui est digne de gloire, un Dieu sur qui on peut investir. Et Jacob va être plus courageux à partir de ce moment-là. Jésus donne cette image aussi. À la fois pour rappeler que c'est encore lui le maître de l'Ancien Testament, mais aussi c'est le maître de toute la Bible. Et Jésus va véritablement s'appuyer sur cette image, et la différence ici, c'est que lui dit, il descend au-dessus du Fils de l'homme. Comme pour dire que ça se centre sur lui, ça se centre sur sa personne, sur son œuvre. Aujourd'hui, nous pouvons voir la puissance de Dieu, mais en restant scotché vers Jésus, en étant en Christ. Alors, je vais peut-être finir avec juste ces petites questions, ces petites réflexions. Un disciple, c'est important. C'est important d'être formé comme disciple. C'est un moyen pour apprendre à servir Dieu. Qui, mieux qu'un disciple, serait un bon serviteur? Quelqu'un qui a été à l'école du disciple, ça sera un bon serviteur. Imaginez, je vous ai dit, ce gars de l'art martial là qui a 6 ans quand il rentre à l'école, à 18 ans. Mais vous connaissez le témoignage de Tony Anthony. Tony Anthony qui a été formé tout petit. Eh bien, à 18 ans, 19 ans, c'était une machine à frapper, à défoncer ses adversaires. Il avait été bien formé. Il a été à l'école de son maître. Et vous imaginez, Tony Anthony pouvait ouvrir des écoles d'arts martiaux et toujours se référer à son maître en disant, je vais les enseigner comme moi-même j'ai été enseigné. Je vais leur apprendre ce que moi aussi j'ai appris. Un disciple, c'est quelqu'un qui va être un bon serviteur. Parce qu'il dispose des enseignements du maître. Parce qu'il connaît la vie de son maître. Il peut s'inspirer des images et des faits de la vie de son maître. Il peut s'en inspirer au jour le jour et se dire, ah oui, dans telle circonstance, mon maître fait comme ça. Quand il y a tel problème, mon maître réagit comme ça. Quand il y a telle situation, il fait comme ça. Et avec ça, il peut avancer. Et il peut être véritablement un serviteur important. Deuxième chose que je voulais aussi dire en relation avec l'évangélisation, être disciple, c'est un moyen important pour assurer le suivi spirituel des âmes converties. Comment puis-je faire grandir quelqu'un spirituellement si je ne sais même pas par quel chemin je suis passé moi-même pour grandir? Comment le faire? Comment pourrais-je être un disciple efficace si moi-même je ne suis pas passé par là? Il me faut à la fois du contenu, c'est-à-dire des enseignements, mais il me faut aussi des exemples, des modèles, des attitudes. Et être disciple, c'est ce moyen-là aussi. Qui mieux qu'un bon disciple pourrait montrer à un autre tout le cheminement par lequel il faut passer? Souvenez-vous, Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Ça, c'est la clé de l'évangélisation. Être disciple. Alors, j'espère que ce matin, je vous ai donné envie de pouvoir vous inscrire à l'école de disciples. Je n'ouvre pas d'école de disciples. Mais j'aimerais que vous y intéressiez. Et si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez, nous pouvons ensemble mettre en place des modules où nous allons apprendre petit à petit c'est quoi être un disciple et comment grandir. On va commencer avec quelque chose de très pratique. C'est comment répondre en tant que chrétien lorsque quelqu'un se convertit et que je le fais grandir. Comment on fait grandir quelqu'un spirituellement? S'il y a des convertis aujourd'hui, comment je fais pour les faire grandir? C'est déjà l'école des disciples. Les autres choses, on peut aussi apprendre ensemble. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous recommander à toi, moi le premier d'ailleurs, pour te demander ta grâce, Seigneur, que nous puissions être des bons disciples. Nous comprenons, Seigneur, que c'est là la caractéristique principale du chrétien, c'est d'être ton disciple. Et nous sommes à ton école, nous sommes à tes pieds, nous sommes tes apprentis. Nous te suivons, Seigneur, nous suivons tes enseignements. Et nous voulons, Seigneur, grandir dans cette dimension de disciple afin d'être vraiment de plus en plus à ton service, des bons serviteurs, des bons et fidèles serviteurs. D'être aussi, Seigneur, aussi des moyens par lesquels d'autres âmes moins affermies pourront grandir spirituellement aussi. Accorde-nous cette grâce alors que nous avons le désir de te servir. Dans le nom de Jésus. Amen.